Aujourd'hui, on utilise 2 centilitres d'eau par nettoyage, c'est 4 water par cycle, et donc on arrive à être 6 fois moins polluant en termes d'impact carbone qu'un lave-vaisselle par exemple.
Bonjour, je suis Thibault Lamarck, le fondateur et président de Castali, une entreprise de l'économie circulaire créée en 2011. Pour le podcast La Relève, je vais à la rencontre des acteurs du changement, celles et ceux qui rebattent les cartes de l'ancien monde, qui repensent les modèles dépassés et inventent de nouvelles méthodes pour bâtir une société moins gourmande en ressources, plus écologique, mais aussi plus juste, plus humaine, au service du plus grand nombre. Bref, ceux qui osent. Aujourd'hui, je reçois Clément Houlier, cofondateur et CEO de Aum. À 33 ans, ce jeune entrepreneur a lancé une solution high-tech et écologique pour en finir avec les gobelets à usage unique. Salut Clément.
Salut.
Est-ce que tu peux te présenter, nous parler de ton enfance, d'où tu viens, tes parents?
Ouais, donc bon, tu l'as dit, j'ai 33 ans, mais je viens du Havre, donc normand, et écoute, enfance tranquille, dans une ville... abordable, près de la mer. Et puis, j'ai rejoint Paris pour mes études d'ingénieur.
T'as des frères et sœurs?
J'ai un frère, un grand frère, qui a 4 ans de plus que moi.
Il est entrepreneur aussi?
Non.
Non? Des entrepreneurs dans la famille?
Non, on n'a pas trop la même mentalité, même si on se ressemble un peu quand même. Mais non, il n'y a pas trop d'entrepreneurs dans ma famille.
T'as fait ton lycée au Havre?
J'ai fait ma lycée, enfin collège, lycée et prépa au Havre.
Ouais. Ok. Et après, école d'ingé?
École d'ingé à Paris, et après j'ai fait mon stage de fin d'études chez L'Oréal, même si c'était une école pas mal mécanique, mais il y avait un parcours un peu plus logistique, production, ce qui m'intéressait pour sortir en fait l'ingénierie pure, faire de la conception méca, et je me suis dit ok, ça
pendant
me permet...
Pendant ton école d'ingénieur, c'était une école spécialisée sur...
Beaucoup de méca, ouais.
Ouais.
Et quelques ouvertures, en vrai, tu touches à tout quand même, ça reste assez généraliste, mais...
T'as fait quelle école?
Ça s'appelle SupMéca Paris. Et ouais, après, j'ai voulu, si tu veux, toucher à d'autres choses, parce que je me suis dit, je vais m'enfermer. J'avais fait un stage chez Airbus qui était canon, mais j'avais peur de m'enfermer dans l'industrie aéronautique ou autre. Et je me suis dit, en s'ouvrant sur une boîte dans la cosmétique, ça va me permettre de m'ouvrir à tout. Et en fait, je suis resté 6 ans après, chez L'Oréal.
6 ans chez L'Oréal, donc tu as fait un poste pendant 6 ans ou...
Non, j'ai fait pas mal de postes. Au début, c'était dans la supply pendant 3 ans. Et j'étais intéressé par le business, donc je suis passé dans un poste qui s'appelle Business Planning, qui permet de faire le lien entre justement tout ce qui est supply et aussi business. Et ensuite, je suis passé directement du côté un peu plus obscur du business, où j'étais trade marketer. Donc je gérais un peu les assortiments pour Monoprix, et ensuite je suis passé que compte manager pour Monoprix, pour tout ce qui est DPGP, donc produit grand public. Les marques Narta, Ushuaïa, Kadom. Et puis, j'ai appris pas mal de trucs et c'était ultra intéressant en tant qu'ingé, tu vois, d'aller chercher cette casquette un peu plus business. Et puis, j'ai un ami qui m'a proposé de rejoindre son ETI en région parisienne pour faire de l'innovation et donc de monter un startup studio au sein de cette ETI. Et ça, ça a duré 1 an et demi et c'est de cette expérience-là qu'est née Aum. Et qui au final m'a fait quitter donc cette entreprise.
L'ETI, c'est Supratech.
C'est
tu
Supratech,
peux nous
ouais.
décrire un peu ce que fait Supratech?
Bah, Supratech, c'est ETI familial, donc 1962, qui a fait du négoce technique pendant toute sa vie et qui était en pleine transition pour commencer de l'innovation et développer ses propres produits. C'était un peu compliqué quand même de changer un peu cette mentalité, mais présent dans toute l'industrie française sur des procédés de collage, des procédés d'emboutissage, beaucoup au début l'automobile, puis l'aéronautique. Et donc je suis arrivé en tant que directeur d'innovation pour un peu booster tout ça et avoir une stratégie, comme j'ai dit, d'innovation externalisée, parce que se dire « Ok, je fais du négoce, j'achète, je revends », on va dire, on arrive à maîtriser quand on leur dit qu'il faut mettre 1 million, 2 millions, 3 millions dans l'innovation et que ça va prendre 2-3 ans de R&D et que derrière, on ne sait pas si y a un marché. C'est un peu compliqué quand c'est une ETI. Donc, c'était 55 millions de chiffre d'affaires quand même. Donc, ce n'était pas une petite boîte, mais c'est très compliqué de changer ces modèles-là. D'où l'idée d'externaliser un peu, où on avait un modèle où Supratech prenait des parts, des structures qu'on créait, et puis derrière on trouvait des porteurs de projets pour développer avec un maximum d'autonomie et de liberté quand même.
Du coup, tu es resté combien de temps là, dans ce Startup Studio ?
Je suis resté un an et demi.
Vous avez fait combien de boîtes ?
On a lancé Aoum et après on avait trois autres projets en cours qui du coup sont un petit peu tombés à l'eau quand on est parti quoi. Je dis on parce que Maxime qui était le directeur général est parti aussi dans le projet Aoum.
Tu peux nous citer tes quatre cofondateurs ?
Ouais, donc il y a Maxime Prieto, il y a Thomas Munoz.
Max et... s'occupe de quoi ?
Il s'occupe de toutes les opérations et toute la partie technique spécifiquement où lui il a été habitué. Donc il gérait le bureau d'études au tout début quand il arrivait chez Supratech. Donc il a une grosse expertise dans le développement produit et il drive toutes les équipes techniques, conception, recherche.
Et qui d'autre ?
Donc Thomas Munoz, ouais. Qui a baigné dans la vapeur depuis longtemps et qui était aussi chez Supratech et qui a une très bonne sensibilité pour avoir plein d'idées, pour lancer des protos. Et on s'appuie beaucoup sur lui pour avoir de nouvelles idées. Et Mathieu Bourris, qui lui s'occupe de toute la partie recherche aussi et travaille beaucoup avec Thomas. C'est eux clairement qui ont conçu la techno de notre première solution. Voilà, on va rentrer
dans Mathieu, il était aussi à Supratech.
Ouais.
Donc en fait, toi, tu es arrivé de l'extérieur, de chez L'Oréal.
Ouais.
Tu étais là pour monter un startup studio. Et puis finalement, tu piques... trois personnes, dont le DG
voilà.
De Supratech,
voilà.
De l'ETI, et tu montes à Aoum.
Exactement, sachant que c'était en parfaite entente, entre guillemets, avec le board à l'époque, où Supratech avait des parts de Aoum, et c'était convenu qu'on allait lancer cette boîte à l'extérieur, et on verrait ce que ça donnerait. Quoi.
Pourquoi tu dis « avait des parts de Aoum »
Parce qu'on les a sortis au moment où on est sorti du groupe, en fait, d'un commun accord.
Tu peux nous décrire un peu ce que c'est que Aoum, qu'est-ce que ça veut dire et comment ça fonctionne ?
Ouais, donc Aoum, c'est l'acronyme de Arrêtons l'usage unique maintenant. Je pense que c'est la vision quand même d'un monde où la réutilisation va être ultra importante dans les années à venir. Ça l'est déjà un peu, mais je pense que ça va se développer encore. Et la rencontre aussi d'une vision que... Sans le nettoyage, sans un nettoyage à la hauteur et des usages adaptés, on n'arrivera pas à faire développer la réutilisation davantage. Et donc, on se place comme une boîte de développement de nouvelles technologies pour favoriser la réutilisation et combattre l'usage unique. Quoi.
Mais comment ça fonctionne dans une boîte ? Là, chez Castali, si je mets une machine à Aoum, comment ça marche ?
Bah, tu vas la mettre, je pense, à côté de tes...
On a deux machines à café.
Ouais, à voir, mais le mieux, c'est que tu en mettes une à côté de chaque machine à café.
Ouais.
Ça fonctionne avec ou sans arrivée d'eau. On a les deux possibilités, donc tu pourras, si tu n'as pas d'arrivée d'eau là, tu pourras quand même l'installer. Et du coup, chaque personne a son verre, un verre brandé, Castali, sympa. Et puis toute la journée, dès qu'ils vont prendre un café, ils peuvent le nettoyer en 10 secondes avant de le réutiliser, de boire... ton eau pétillante ou ton café. Et puis on a un petit... Je te conseille de mettre un petit stock de verre à côté de la machine quand même, quand tu as des visiteurs ou autres. Comme ça, ils n'utilisent pas de gobelet jetable, même si j'ai bien vu, il n'y avait pas de gobelet jetable, donc tout va bien.
Ça, tu ne vas pas en trouver chez Castali ou si tu en trouves, il faut me le dire.
Okay. Là,
je vais aller chasser le responsable. Vous êtes combien chez Aoum ?
Là, on est 34 maintenant. Donc ça fait pas mal et je pense que ça s'explique notamment parce qu'on a cette vision d'une boîte avec un modèle tout intégré où bah forcément on fait de la recherche, du développement. Maintenant on fait l'assemblage de nos propres machines. Donc on a pas mal aussi de personnes, gestion du magasin, montage des sous-ensembles et puis assemblage de la machine finale. La maintenance, puisqu'on gère la maintenance de nos machines chez nos clients et puis ensuite... la partie plus business derrière qui accompagne toute cette technologie. Voilà, donc,
quand est-ce qu'elle est sortie la première machine ?
Elle est sortie fin août.
Fin août, donc c'était on est le 16 décembre, donc c'est il n'y a pas si longtemps que ça.
Non.
Vous en avez combien sur le terrain aujourd'hui ?
Là, on en a 70 sur le terrain.
Qui ont été fabriqués où ?
Qui ont été fabriqués donc, à Bourg-la-Reine, dans nos bureaux. Et on va arriver à 98, là, on a encore une grosse semaine là, avec pas mal de livraisons jusqu'à Noël. Et on va être un tout petit peu en dessous des 100 à la fin d'année. Quoi.
Content ?
Ouais, trop content.
Ça fait combien de temps là que tu vous l'avez attendu combien de temps cette machine?
Ça fait 3 ans. Enfin, les premières discussions, tu vois, sur la boîte où on a commencé, où moi j'ai commencé à m'intéresser au marché, c'était en juin 2018. Et donc ça fait bizarre de passer d'une boîte pure R&D à gérer du business, gérer des clients. Et c'était ce qui, moi, m'animait, parce que pour le coup, c'est ce que j'avais vécu notamment chez L'Oréal, et c'est ce qui m'excitait au-delà des shampoings, parce que c'était pas vraiment ce qui m'excitait, mais c'était le côté business et c'était cette dynamique qu'il y avait dans la boîte et le lien qu'il y avait entre toutes les équipes, avec toujours cette envie d'aller chercher plus de choses. Et là, du coup, c'est un très bon point. Je pense que ça apporte une dynamique de dingue. Et après, les problèmes se multiplient, quoi, on va dire, mais tant mieux.
C'est quoi là vos gros challenges sur 2022?
Bah, les gros challenges, ça va être d'accompagner la croissance, sachant que on a un gros carnet de commandes. On a plus de 450 machines signées, et donc il va falloir livrer sur 2022
Donc là, vous avez fabriqué 100 machines en 4 mois?
Ouais.
Et vous en avez déjà signé 450?
Ouais.
En plus des 100?
Non, enfin en gros avec
donc il y a 350 machines qui sont déjà vendues mais que vous n'avez pas encore fabriquées.
Ouais, et qu'il faut qu'on fabrique avec on va dire un moment en termes de supply qui est pas très simple quoi, parce que beaucoup de pénuries, des prix qui explosent. Sécuriser sa supply, augmenter sa capacité de prod, parce que bon, bah là on était en lancement, donc au début il y a aussi toute la formation des monteurs, etc. Et donc là, c'est augmenter notre capa de prod. Commencer aussi à investir un peu dans un outil un peu plus automatisé, parce qu'on a aussi cette vision-là d'être une boîte industrielle, si possible dans Paris. Donc tu vois, on va déménager parce que là on a 500 mètres carrés, mais ça devient un peu petit. Et on aimerait beaucoup produire dans Paris. L'objectif là, c'est d'être à 100 machines par mois dès janvier. Et on se rend compte qu'il faut qu'on améliore notamment toute la logistique interne, tous les flux internes de la boîte. Aujourd'hui, un monteur, il passe 60% de son temps à aller en magasin et récupérer les bonnes pièces pour faire le montage de sa machine, quoi. Donc tout ça, il faut qu'on l'automatise avec du picking, avec des petits chariots qui arrivent pile au bon moment devant le monteur. Donc c'est pas mal de sujets très industriels. Donc ça, c'est un premier gros sujet. Deuxième gros sujet, c'est d'accompagner cette croissance-là, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 personnes sur la partie commerciale. Donc ça fait pas mal de boulot. Et donc ça va être aller chercher encore plus de précommandes pour l'année 2022 pour la sécuriser. C'est les challenges qu'on a. Et nous, on a aussi un challenge en interne qui est de se développer sur d'autres contenants. Et quand on voit qu'on a mis 3 ans là pour développer cette machine-là, si on veut arriver sur d'autres marchés, il faut qu'on commence à y réfléchir dès maintenant. Et donc, c'est déjà mettre un peu les équipes de R&D sur des prochaines marches, quoi.
Donc là, ce que je comprends, c'est que vous avez une machine qui est design,
ouais,
qui est assez sympa d'ailleurs à côté d'une machine Castalli.
C'est clair.
Qui permet de laver des verres Bodum à double paroi.
Ouais.
Donc, c'est des jolis verres que je peux réutiliser. C'est quoi le premier retour de vos clients? Là, vous avez installé quasiment 100 machines. C'est important, ces premiers mois. C'est quoi le retour qu'ils vous font?
Bah, le retour, c'est qu'il y a une adoption massive des collaborateurs.
Elle est utilisée combien de fois par jour, la machine?
Alors, ça dépend des entreprises, mais en moyenne, c'est 200 fois par jour par machine.
Donc, ça évite 200 gobelets. Donc,
ça, c'est la moyenne. Il faut savoir que c'était un peu une de nos peurs, parce qu'on avait une innovation technologique, mais aussi une innovation d'usage. Donc comment les gens allaient adopter nos verres et comment ils allaient utiliser la machine, c'était une vraie problématique. Donc nous, on a fait quand même quasiment 6 mois de tests chez nos clients. Donc on a eu pas mal de retours, ce qui nous a permis aussi d'accompagner avec du merch l'usage. On a un onboarding client qui est ultra important, avec de la communication interne pour que les gens, au moment où ils voient la machine, sachent l'utiliser, même si on a voulu un usage ultra simple. On a juste à déposer son verre, il y a une reconnaissance automatique. On a notre dôme qui se ferme, qui encapsule le verre, et ensuite on envoie de la vapeur à l'intérieur. Et une fois que le verre est nettoyé, désinfecté et séché, la personne a juste à le récupérer. Donc, mais on avait quand même des doutes, et on a une adoption massive des gens sur place. Et c'est d'ailleurs, je trouve, c'est un bon exemple. Aujourd'hui, on fait beaucoup de tests sur une semaine ou quelques jours dans les entreprises qui n'ont pas encore signé et qui souhaitent tester la machine. Et quand on s'en va, on laisse un vide, quoi. Comment on va faire, c'est-à-dire qu'on va devoir renettoyer nos mugs aux toilettes ou autre. Donc c'est là où on a, pour moi, on a réussi le coup de l'usage. Et par contre, là, les retours, nous, qu'on a, où on doit encore s'améliorer, c'est comment on optimise encore la machine, notamment sur le bruit, qui est un point, parce qu'on aime que les environnements de travail soient les plus silencieux possibles.
Nous, on a deux ambiances. On a l'ambiance des sales, ouais, qui est assez bruyante,
ouais,
et puis on a une ambiance un peu
bon,
plus
bah, si ils entendent la machine un petit peu nettoyer toutes les deux minutes, ça leur déplaît. Donc, on a beaucoup travaillé,
mais
là.
Ça fait pas plus de bruit qu'un moulin à, un moulin
non,
à café.
Non, ça fait pas plus de bruit, mais même un moulin à café, c'est problématique dans les open space ou autre. Donc c'est là, nous, on a travaillé depuis 3-4 mois et où dès janvier, on va intégrer un nouveau système de séchage qui fait beaucoup moins de bruit. Donc c'est là aussi où tous les retours de nos clients sont ultra importants, nous, pour continuer d'optimiser, d'avoir toujours une longueur d'avance. Parce que même si aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de concurrents sur notre secteur.
C'est qui vos concurrents ?
Ça reste aujourd'hui vraiment le concurrent, c'est le mug que les gens vont nettoyer aux toilettes. Parce que
celui-là,
ça reste.
Celui-là, c'est un concurrent démodable.
Voilà.
Et puis, il n'y a pas de plastique. Donc, finalement, ce n'est pas vraiment
ouais,
ton sujet.
Ça pourrait ne pas être un sujet, mais on constate qu'en moyenne, c'est 2 litres d'eau par nettoyage dans des lieux qui sont peu adaptés pour le nettoyage. Et le bilan, finalement, écologique de ce nettoyage-là est
ah, pas incroyable. C'est combien de...
Nous, on utilise 2 centilitres d'eau. Et donc, avec 2 litres, qui est environ. La quantité d'eau dont on a besoin pour nettoyer un mug, nous, on arrive à faire 100 verres. Quoi. Donc, la différence est quand même assez importante. Et ensuite, les concurrents qui existent, c'est des gens qui font un peu... Enfin, qui font de la consigne, donc avec des collecteurs. Ils viennent récupérer les gobelets réutilisables et puis ils vont les nettoyer à l'extérieur.
Tu as quelques noms ?
Ouais, il y a Newsy notamment. Ça, il y en a pas mal en entreprise. Et après, il y a de la vaisselle aussi, qui là fonctionne bien, je pense, dans les petites structures. Et dès qu'on atteint plus de 30-40 personnes, ça devient très compliqué à gérer. Qui va acheter les civiels, qui remplit le lave-vaisselle, qui le vide. Il y a des femmes de ménage qui s'occupent de faire ça. Mais dans tous les groupes là où aujourd'hui on est, c'est parce qu'il n'y avait pas de lave-vaisselle et que c'était hors de question d'avoir un lave-vaisselle pour gérer ça au quotidien, quoi.
Et tes premiers clients, là, ils étaient encore au plastique ou ils étaient déjà passés à une autre solution? Et finalement, Aum, tu viens remplacer une solution qui utilisait déjà plus de plastique?
Il y en a qui étaient au gobelet jetable, qui switch. Il y en a qui étaient au lave-vaisselle, mais notamment avec le Covid, qu'on banni les lave-vaisselle parce qu'en termes d'usage, c'est des gens qui vont toucher des verres, des autres qui vont les ranger. Et du coup, ils ont interdit l'usage des lave-vaisselle, donc ils étaient à la recherche d'une solution plus adaptée. Il y en a, pour ne pas les citer, qui avaient des mugs, qui nettoyaient aux toilettes. Mais comme c'était très contraignant, les gens ne lavaient pas leurs mugs. Sauf qu'aujourd'hui, tu vois, un des gros enjeux aussi des boîtes, c'est quelle expérience je donne à mes salariés pour les faire revenir au travail. Et l'objectif aussi de tous les directeurs des environnements de travail, c'est de vendre une nouvelle expérience qui est sympa pour retourner au travail, être efficace et prendre du plaisir aussi. Et clairement, aller nettoyer son verre aux toilettes, c'est pas le moment le plus fun de sa journée, quoi. Et puis, il y a le côté invité qui fonctionne très bien, sur lequel aujourd'hui, mettre des mugs à dispo pour les invités, c'est compliqué. Et on trouve, même sur les gens qui sont passés sur du réutilisable, il y a toujours un peu de stock de gobelets jetables pour les gens externes, quoi. Et là, ça les intéresse de dire « Ok, on va mettre une machine à l'accueil. » Comme ça, ça reste l'image de la boîte aussi. C'est la première chose que la personne voit quand elle arrive dans la boîte. Est-ce que vous voulez un café, un verre d'eau ? Et quand on les sert dans des gobelets jetables, c'est pas forcément l'adéquation avec l'image que veut véhiculer les boîtes avec qui on travaille, quoi.
C'est quoi l'impact environnemental positif d'Aum ?
Alors, notre impact, nous, on a pensé le produit et la technologie pour justement concurrencer efficacement un lave-vaisselle. Et aujourd'hui, on utilise 2 centilitres d'eau par nettoyage. C'est 4 watt-heures par cycle. Et donc, on arrive à être 6 fois moins polluant en termes d'impact carbone qu'un lave-vaisselle, par exemple.
Il y a des pastilles à mettre dedans ?
Non, pas de chimie. C'est que de l'eau. Donc, on utilise de la vapeur sèche à 140 degrés. Et en fait, les propriétés chimiques de l'eau à cette température et avec une pression particulière permettent de nettoyer en profondeur et de désinfecter notre verre. Et forcément, le fait d'utiliser très très peu d'eau est aussi un de nos gros gros avantages et sur lequel je pense qu'il y a d'énormes choses à faire sur plein d'autres contenants, parce que qui dit réutilisation dit nettoyage, et aujourd'hui tous les nettoyages qui existent sont souvent des nettoyages haute pression, type Karcher ou autre, pour nettoyer vite et efficacement. Et la consommation d'eau de toutes les études là qui sont ressorties explose si on passe sur du réutilisable partout, quoi. Et donc, nous, notre vision, c'est de dire on peut passer sur du réutilisable avec un nettoyage qui consomme très peu d'eau.
Vous avez réalisé une analyse de cycle de vie produit, une ACV ?
Alors, on a fait une première analyse, nous, en interne, avec nos équipes, pour savoir dans quelle direction on allait et être sûr que ce qu'on faisait avait du sens. Et là, on est en train de travailler, maintenant qu'on a la machine totalement finalisée avec toute la supply chain, tous nos fournisseurs, on va pouvoir vraiment, cette fois-ci, partir avec un cabinet et nous faire une vraie belle ACV. Mais on attendait d'avoir un peu d'argent aussi pour le faire.
Ok, donc c'est dans les prochains mois.
Exactement.
En 4 mois, là, est-ce que tu sais combien il y a de cycles d'utilisation des machines ?
Alors, c'est une bonne question, on en a souvent parlé, Thibaut. Les machines n'étaient pas connectées au démarrage,
ouais.
Parce qu'on a eu un peu de retard à l'allumage, mais là, toutes les machines qui vont arriver en janvier vont être connectées. Les premières ont été installées là il y a quelques jours, et donc on va pouvoir suivre ça réellement. Après, on peut se dire que...
Si tu en as 200 par jour par machine,
voilà, bon.
Sur une centaine de machines, ça veut dire que tu as 2000 cycles, 2000 gobelets évités tous les jours ?
Ouais. Et on pourra avoir un très beau compteur après, dynamique, sur le nombre de gobelets qu'on aura sauvés. Mais non, on attend la connexion de nos machines pour notamment suivre l'usage, voir si les machines sont bien placées dans les entreprises, etc. Et c'est aussi ce qu'on apporte, nous, aux boîtes, c'est de la data sur leur consommation d'énergie pour tous les rapports RSE des entreprises, qui est aujourd'hui aussi un plus qu'on voulait leur donner.
Il y a combien de brevets sur la machine ?
On a 3 brevets.
Que vous pouvez réutiliser dans d'autres situations ?
Ouais, c'était l'objectif de ces brevets. Dès que nous, on tombe sur un nœud technologique dans le développement, on dépose un brevet et on a pensé ces brevets pour les adapter sur d'autres types de contenants.
Typiquement, une bouteille Castalli, quand est-ce qu'on la lave dans une machine à houm ?
Bah, si on s'y met rapidement, il faut compter, je pense... 1 an et demi, 2 ans de développement. Bah après, c'est là où c'est intéressant. On a mis 3 ans pour développer cette première machine. Le fait d'avoir construit cette machine-là pour la rendre accessible à d'autres contenants fait que les temps de développement vont être beaucoup plus faibles. On va réutiliser beaucoup d'éléments déjà existants. Par contre, il y aura toujours de l'adaptation. Et toute la partie industrialisation, elle prend toujours 6-8 mois. Donc, c'est pour ça que j'estime que c'est 1 an et demi, 2 ans maintenant pour développer des nouvelles solutions, quoi.
Et c'est quoi vos prochains marchés ? Parce que là, finalement, vous démarrez sur la partie machine à café, enfin lavage de verre. On va dire que c'est pas que la machine à café, ça peut être aussi
la fontaine. Les verres d'eau, ouais.
C'est quoi les utilisations possibles de ces brevets ?
Nous, on a envie de s'attaquer à le marché du refill et de la consigne. Donc avec sur la partie alimentaire et sur la partie cosmétique, avec un refill en magasin ou alors directement sur les lignes de production des entreprises dans l'agroalimentaire, et où ils ont des gros besoins de nettoyage. Et nous, on souhaite adresser ce marché-là d'ici 2-3 ans. C'est un marché qui est en train de se transformer énormément. Il y a aussi pas mal de lois autour de la consigne qui poussent tout le retail à se transformer. Je crois que c'est 2030... pour toutes les surfaces de plus de 400 mètres carrés, 20% de l'espace alimentaire devra être dédié au vrac. Sachant qu'aujourd'hui, je pense qu'on doit être sur moins de 1%. Donc toutes ces boîtes-là, les Leclerc, Auchan, Carrefour vont devoir se transformer énormément. Et aujourd'hui, tout le business model lié à la consigne, quand on fait du nettoyage externalisé, ça fait clairement exploser les coûts. Et aujourd'hui, le PNL ne passe pas, quoi. C'est comme si aujourd'hui, je disais, quand tu manges chez toi et ton assiette, au lieu de la mettre au lave-vaisselle et d'avoir un nettoyage sur place, je disais, il faut que tu l'envoies dans un centre industriel de nettoyage à 200 km de chez toi, quelqu'un vient de récupérer ton assiette, là il la nettoie à 200 km et puis te la ramène. Forcément, en fait, ton repas, il va te coûter beaucoup plus cher. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur la consigne, quoi. Donc nous, notre vision, c'est de dire il faut que le nettoyage soit sur le lieu de consommation, le lieu de refill. Et c'est ce qui va permettre réellement de faire exploser le marché du rack et de la consigne demain, quoi.
Donc tu pourrais laver un contenant comme un Tupperware ou...
Lunchbox, Tupperware, bouteille, flacon de parfum... Donc l'idée, c'est de standardiser un minimum, parce que c'est la standardisation qui permet d'avoir le nettoyage le plus écologique, parce que si on a X formes différentes il faut s'adapter à chaque forme, il faut rajouter beaucoup de chimie, beaucoup de temps. Alors que si on a des contenants qui sont designés pour être facilement nettoyables, alors on pourra vraiment avoir un nettoyage ultra rapide et écologique. Et donc, on travaille aussi sur une standardisation de 5-6 contenants pour adresser tout le marché de la consigne et du vrac, quoi.
Vous êtes déjà dessus ?
On réfléchit beaucoup, on regarde le marché, comment il évolue. On a des premiers contacts avec pas mal d'acteurs sur ce marché-là. Et l'idée, c'est de, je pense, post-levée de fonds, de commencer réellement à mettre des équipes projet dessus et à développer la technologie associée, quoi.
Tu parles levée de fonds, là. En octobre 2020, vous avez déjà levé des fonds avec Maïf, Maïf Investissement
Impact.
Solidaire. Maïf Impact.
Ouais, ils ont changé de nom maintenant, okay. Mais Maïf Impact, ouais.
Et là, vous avez levé combien ?
On a levé, le tour de table faisait 1,3 million au total.
Et là, tu reparles d'un nouveau tour de table ?
Ouais, l'idée, c'est de justement, avec on a justement parlé des gros enjeux juste avant, et nous, on a, pour aller chercher tous ces développements, que ce soit sur la partie industrielle, la partie business, et puis ces nouveaux projets, on aimerait lever là sur le Q1 2022.
C'est facile de lever quand on fait du hardware ?
La réponse est non.
Ouais, je peux répondre aussi à toi. La réponse est non.
La réponse est non. Clairement, on n'a pas un écosystème ultra
hardware
friendly.
Je ne sais pas pourquoi, il
n'y
a pas d'écosystème français et pas plus...
Ouais.
Le hardware, pour ceux qui ne sont pas familiers, qu'est-ce que c'est ?
Le hardware, c'est le produit, quoi. C'est un produit dur que tu peux toucher. Ça fait peur. Clairement, déjà, quand on fait du VC, je pense qu'on n'aime pas trop le risque, même si c'est inhérent à ce métier-là, mais on essaie de le réduire au maximum et le hardware fait encore plus peur que le soft parce que on crame du cash, c'est clair, et que derrière on a toujours peur qu'il y ait des problématiques de supply. Mais c'est vrai qu'on le voit bien, hein, c'est tellement complexe que
vous aurez un avantage quand même, c'est la traction commerciale qui est phénoménale.
Ouais, traction commerciale, et puis c'est pour ça qu'on veut aller vite et qu'on sent ce momentum aussi. On sent qu'il y a pas réellement de concurrence directe, d'où l'idée d'aller lever rapidement et à terme d'aller chercher l'international. Alors, peut-être pas tout de suite parce qu'on a ce besoin de structurer toute notre démarche en France et notamment toute la digitalisation qui est ultra importante pour moi, qui est de dire aujourd'hui on développe un produit, on le met sur le marché et il faut qu'on s'assure d'offrir le meilleur service à nos clients. Et pour ça, si à un moment donné, on veut partir à l'étranger, il va falloir qu'on digitalise toute l'expérience et que si ce soit d'autres qui opèrent à notre place, qu'on puisse avoir la maîtrise aussi du service. Et donc, c'est aussi le gros sujet de 2022, c'est rendre ce modèle le plus scalable et avoir ce lien avec les clients tout en externalisant une partie de notre travail qui est la maintenance, par exemple.
Vous avez reçu un prix d'innovation de CBRE il y a quelques semaines.
Ouais.
C'était quoi ce prix ?
C'était un prix sur les innovations justement sustainable dans ces grands groupes. Donc on commence à avoir pas mal de petits prix, que ce soit CBRE, mais aussi avec le World Impact Summit.
C'est un de vos clients, CBRE ?
Non, c'est pas un de nos clients, mais ils peuvent... en tout cas, ils trouvent des clients pour nous. C'est très agréable.
Tu nous as parlé rapidement tout à l'heure des projets. C'est quoi tes projets 2022 ?
Déménagement, nouveau site de production.
C'est déménagement des bureaux aussi ou...
Ouais. Aujourd'hui, on est tous sur le même lieu. C'est encore assez important parce qu'il y a une très belle dynamique qui sort d'un unique lieu. Et c'est encore important dans notre phase où on doit continuer de développer de nouveaux produits, d'être tous ensemble réunis. Et peut-être que d'ici quelques années, on switchera avec un modèle de production à part, parce que là, ça sera des prods de grande série, quoi.
Côté perso, t'es marié ?
Ouais.
T'es papa ?
Exactement, marié et papa.
Il a quel âge ton enfant ?
Il a 8 mois. C'est très sportif, on le voit.
C'est facile les nuits ?
Non, c'est pas simple. C'est deux projets en un. Et en plus, le début de la crèche fait que tu récupères toutes ces maladies.
C'est la vie de parents.
Voilà, c'est ça, que tu connais aussi. Mais
Est-ce que ça t'a rendu meilleur d'avoir un enfant ?
Là, ce n'est pas le mot que j'utiliserai encore. Peut-être dans quelques mois, quand il dormira bien la nuit. Non, par contre, c'est beaucoup d'organisation. C'est plus d'organisation encore. Ouais. Mais non, c'est génial. Après, on espère aussi, je pense, avec le développement de Home, justement, arriver à créer plus d'équilibre au sein de, enfin nous au sein des équipes, aujourd'hui on est resté quand même ultra concentré sur le projet et c'était la priorité. C'est vrai que le fait aussi de se rendre compte de ce qu'il y a à côté fait que je pense qu'on va réussir à... Enfin en tout cas on souhaite structurer la boîte aussi dans ce sens-là pour rendre, si tu veux, les collaborateurs heureux davantage, même si je pense qu'ils sont très contents, mais, non, mais trouver plus d'équilibre encore. Là, aujourd'hui, on est encore en mode développement, projet, lancement, où je pense qu'on est tous ultra à fond. Et on a, finalement, on n'a pas beaucoup d'ailleurs de parents dans la boîte encore.
Est-ce que j'ai oublié de te poser une question ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire au micro de la relève ce matin ?
Non, mais alors, on en a déjà parlé, mais c'est un point qui est un gros sujet pour nous, qui est quand même notre modèle et dans lequel, tu vois, on a beaucoup réfléchi sur notre modèle d'entreprise, savoir si on devait continuer de développer des technologies ou savoir si il fallait qu'on soit en contact avec notre client. En tout cas, nous, on croit énormément en ce modèle intégré. Et je pense que c'est ce qui fera la réussite du hardware aussi. C'est d'être proche de ses clients, même s'il faudra trouver des moyens de rendre ça scalable avec, comme je l'ai dit, la digitalisation. Mais je pense que j'étais un peu picousé quand même aussi chez L'Oréal, où le marketing était roi et où clairement c'était le marché qui drivait aussi tout le reste. C'est pour ça que tous les DG chez L'Oréal sont issus du marketing. Et je pense que c'est une culture de boîte qu'on essaye de mettre en place. Où nos monteurs vont installer des machines pour voir les clients, où les gens qui conçoivent les produits vont chez les clients aussi à chaque fois. Bon, ils n'y vont pas tous les jours, mais on veut qu'ils aient cette culture-là client parce qu'on a été, nous, très souvent frustrés, notamment chez Supratech où ils ont commencé le développement produit, de recevoir des produits qui n'étaient pas tellement adaptés à leur marché. Et quand ils demandaient des optimisations et des modifications sur les produits qu'ils achetaient, en gros, les fabricants leur disaient c'est pas notre priorité, quoi. Et je pense que ces deux mondes-là doivent fusionner en continuant de se transformer. Mais c'est ce qui fera, je pense, la vraie création de valeur des boîtes hardware de demain en France.
Un grand merci Clément pour l'échange. Il y a pas mal de points communs entre Castelli et Aum. Alors, je pense que, un, il y a le plastique à usage unique, en tout cas une des solutions contre le plastique à usage unique. Il y a le design. C'est important le design pour changer les usages et pour le faire accepter. Pour nous, la réutilisation de bouteilles et pour vous, le lavage de verre ou de gobelet. Et puis, ça fait plaisir de rencontrer un entrepreneur qui fait du hardware. Il n'y en a pas beaucoup des projets comme celui-là. Donc bravo et puis longue vie à Aum.
Eh ben merci et merci à Castelli d'avoir ouvert la voie aussi parce que j'avoue que ça nous aide beaucoup avec nos clients. Donc merci d'avoir été des pionniers quand même sur ce sujet-là.
Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à nous donner un coup de pouce en le partageant et en le notant sur Apple Podcasts. Vous retrouverez également tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Merci pour votre fidélité et à dans 2 semaines.